L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 8. La reine qui hérita des guerres de Gengis Khan. Comment Alakai Beki, la fille fougueuse et sage de Gengis Khan, étend l'empire mongol et bâtit son héritage au début du XIIIe siècle en Mongolie. Voici la fille d'un Khan qui marche d'un pas chaloupé et qui porte les marques de 20 tigres. Qui marche d'une manière gracieuse et qui porte les marques de 30 tigres, qui marche d'une manière élégante et qui porte les marques de 40 tigres, qui marche d'une manière délicate et qui porte les marques de 50 tigres. Un poème mongol épique. Un cavalier à cheval apparut galopant à travers la plaine austère du désert de Gobi vers la yourte impériale. C'est la Beki, annonça la garde postée à l'entrée de la yourte, reconnaissant l'imposant chapeau de feutre et de plumes de la reine. Une nuée de grues blanches voletait au-dessus d'elle, comme une suite royale. Louons l'éternel ciel bleu et la terre-mère qui veille sur nous. Elle arrive juste à temps. Je prévois le proche départ du prince vers l'autre monde, dit sombrement le chaman, les perles de son vêtement bruissant, tandis qu'il adressait des prières aux cieux. Deux autres femmes qui s'occupaient de Jiang Wei, le prince consort, gravement blessé, le regardaient, craignant le pire. Il venait d'effectuer une nouvelle mission militaire dangereuse pour son beau-père, le grand Gengis Khan. Être le gendre du grand Khan, c'est presque une condamnation à mort, se lamenta l'une des femmes. Oui, on peut difficilement envier son prestige, répondit l'autre. Dehors, Alakai Beki, fille du Khan des Khans, Gengis Khan, et chef de la tribu Ongud, descendit rapidement de sa monture et se précipita au chevet de son mari. « Jiang Wei, mon amour, ne t'inquiète pas, je suis là », murmura-t-elle tendrement, croyant à moitié ses propres mensonges, sachant qu'il s'en allait lentement. Dans sa jeunesse, elle avait appris à lire et à écrire et avait une profonde connaissance de la médecine. Elle avait sauvé Jiang Wei une fois, il y a des années, les aidant tous deux à s'enfuir vers le camp de son père pendant la rébellion des Ongud contre elle. Elle avait à peine 20 ans à l'époque. Son mari d'alors, à la couche, avait été tué, et selon la coutume, elle avait épousé plus tard l'aîné de ses beaux-fils, Jiang Wei. Ensuite, l'armée de son père ayant écrasé la rébellion, elle avait continué son règne. Mais Alakai savait que cette fois, elle ne pourrait pas sauver Jiang Wei. Les blessures étaient trop graves. Elle posa les cataplasmes, des racines de pimprenelle pour arrêter les saignements, et le troll d'Europe pour les douleurs thoraciques. Des larmes inondèrent ses joues. Les traditions des systèmes de médecine mongole du XIIIe siècle prenaient racine à la fois dans le nomadisme et le chamanisme, avec des pratiques telles que le soin kumis, la thérapie par immersion, la phytothérapie et les rituels de guérison chamanique comme le traitement des eaux. Les chamans étaient considérés comme ayant des pouvoirs surnaturels de guérison donnés par les esprits. Ils pouvaient être hommes ou femmes. Les vêtements portés par les chamans arboraient souvent des symboles tels qu'un tambour et un cheval de bois, représentant l'esprit gardien et protecteur du peuple mongol. Le kumis était une sorte de liqueur fermentée préparée à base de lait de jument. Les Mongols l'utilisaient au XIIIe siècle à la fois comme boisson populaire et comme médicament. Cette boisson les aidait à se remettre de leurs blessures et à fortifier leur corps. Les scientifiques ont découvert que le kumis contenait protéines, matières grasses, lactose, acides aminés, vitamines et oligo-éléments des minéraux. Dans la thérapie par immersion, les parties du corps affectées étaient baignées ou immergées dans du sang chaud de bœuf ou de cheval. On l'utilisait également pour soigner les fièvres et autres maladies. La pratique des rebouteux remonte bien avant le XIIIe siècle. Aux périodes du nomadisme intra-asiatique. Les compétences en matière de remise en place des os étaient soit transmises par tradition familiale, soit, dans certains cas, données à travers les rêves par les esprits ancestraux. Les anciens Mongols étaient également bien conscients de l'importance de la médecine diététique et de la valeur des différents aliments. D'après les archives historiques, la mère du futur Gengis Khan, afin de prendre soin de ses jeunes fils, les nourrissait de plantes sauvages telles que des pommes, des cerises, des racines de la grande pimprenelle et de l'ancérine, de l'ail et de l'oignon, des bulbes de lys sauvages et de l'ail des bois. Cela signifie que les premiers Mongols connaissaient la valeur nutritive des plantes et celle qui devait être utilisée dans des cas particuliers. Laissant Zhengwei sous la surveillance du chaman, en train d'appliquer divers baumes sur ses blessures, tout en murmurant des paroles sacrées de guérison, Alakai sortit et parcourut du regard l'étendue de la vaste terre qui s'offrait à elle. Le hurlement du vent froid la remplit d'appréhension. Ses pensées remontaient au premier Kuriltai, tenu en 1206 par son père. Le Kuriltai était une grande assemblée politique qui visait à placer sous la bannière mongole les diverses tribus et alliés en conflit. Ce fut à cette occasion que les grandes tribus reconnurent Genghis Khan comme le grand Khan, maître de tous. Parmi les nombreuses tribus qui étaient présentes se trouvaient les Ongud, alliés de confiance de son père, venus d'au-delà du Gobi. Ils étaient arrivés montés sur des chameaux et portant des cadeaux, soie, vin et 12 laines de chameaux. Les Ongud étaient des semi-nomades qui vivaient aussi dans des villes fortifiées. Alors qu'elle observait avec curiosité les hommes Ongud avec leurs paniers pleins de beaux cadeaux, Tolui, son monsieur je sais tout de frère, lui chuchota à l'oreille. « Tu sais, Alakai, leurs femmes sont nourries de parfums depuis la petite enfance. Ainsi, les abeilles et les papillons les suivent. De plus, leurs femmes nobles se peignent le visage avec du plomb jaune et les lèvres avec les cendres de fleurs parfumées. Ils sont doués pour la poésie, la danse, le chant et jouent de nombreux instruments de musique. » Alakai se souvint s'être sentie très ignorante. Ses principaux intérêts résidant dans le combat à l'épée, le tir à l'arc et l'équitation. Néanmoins, à l'issue du Kuriltai, le chef des Ongud, Alakush, envoya à son père une proposition de mariage, demandant la main d'Alakai. Voyant là une opportunité de renforcer sa présence au-delà de la steppe, le grand Khan accepta volontiers son offre. « Ma chère fille, je t'ai trouvé en Alakush un mari convenable. Tu te rendras là-bas en tant que leur béki, me représentant ainsi que notre tribu. Par le pouvoir, la force, la beauté et la grâce, tu en feras ton peuple et tu régneras sur leur cœur et leur territoire. » Il s'exprima avec une tendre affection paternelle, teintée d'autorité. À 16 ans, Alakai sentait un nouveau monde de responsabilités se poser sur ses délicates épaules. Elle savait que ce n'était pas seulement un mariage, mais aussi un plan d'expansion mongole. Elle avait toujours été l'enfant préféré de son père, demeurant dans son ombre. Enfant, elle adorait dormir avec ses armes, son arc et ses flèches, tout comme lui. Il lui avait même offert une épée décorée de tigre dont la poignée était incrustée de jade. « Je suis prête, père. Je sais galoper à cheval et manier l'arc et les flèches. Je vous ai vu régner avec courage, justice et détermination. Ma mère, Borté, m'a inculqué le devoir de servir la patrie. Je serai la vraie fille de mes parents et vous rendrai fière. » Ses yeux brillaient d'ambition, comme s'ils étaient éclairés par un feu intérieur. Elle avait été élevée pour régner. Pourtant, avec appréhension, elle se réjouissait également de rencontrer son futur mari. Sous son esprit de reine guerrière, battait le cœur d'une jeune mariée. Les filles de Genghis Khan portaient le titre de Béki, et leur mariage était arrangé pour obtenir des avantages politiques. En tant que fille du Khan, elles devenaient de facto les reines dirigeantes des territoires où elles s'étaient mariées. Si le mari avait des épouses précédentes, il devait divorcer pour devenir le gendre du Khan. La future épouse apportait généralement avec elle une dot composée de biens de valeur tels que bétail, bijoux, tissus, serviteurs et éventuellement des esclaves. Lors de la cérémonie de mariage, la mariée se tenait devant sa nouvelle yourte et mettait sa bokta, le grand court chef de reine. Cette coiffe conférait à sa personne une stature sculpturale et une prestance royale. Son support était fait de branches de saule et recouvert de feutre vert ou de soie rouge. Il s'élevait en une colonne étroite de 3 à 4 pieds de haut, passant progressivement d'une base ronde à un sommet carré. Une variété d'objets décoratifs en ornaient le haut, tels que plumes de paon ou de col vert. La bokta des femmes mongoles avait également un rôle particulier. Comme les vêtements des hommes et des femmes étaient de conception, d'apparence et de fonction presque identiques, reflétant des milliers d'années de droits plus ou moins égaux entre les sexes, les hautes coiffes des femmes servaient à différencier de loin les hommes et les femmes. Plus la position de la femme était élevée, plus la coiffe était haute, riche et finement décorée. Avant de pénétrer dans sa nouvelle yourte, la mariée marchait entre deux grands feux qui la sanctifiaient afin qu'elle puisse contracter son mariage dans l'état le plus pur. Malgré la rudesse du pays, les femmes mongoles avaient la peau naturellement claire et les joues d'un rose vif. Cela a été attribué au fait de vivre de la terre, de se nourrir d'aliments simples, lait et viande de yak, riches en nutriments. Les graisses saines peu transformées contribuaient à donner à la peau une texture jeune. Le yaourt, fait du lait des animaux paissant sur des terres ouvertes, constituait un excellent traitement pour l'acné et pour éclaircir le teint. Le gras, riche en nutriments de la queue de mouton, permettait de maintenir la peau bien hydratée et de la protéger des éléments naturels, soleil, vent et froid. Le mode de vie nomade signifiait aussi beaucoup d'exercice pour les gens. Déménagement des camps, traversée des steppes à cheval, montage et démontage des yourtes, soins du bétail, etc. Le cri aigu des femmes à l'intérieur de la yourte interrompit la rêverie d'Alakai. Et des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. Elle sut que Zheng Wei était passée de l'autre côté, tout comme l'avait fait son premier mari à la couche. Elle invoqua en silence l'esprit de la montagne sacrée, Burkhan Khaldun, qui était également le refuge de son père en temps de crise, pour qu'il lui accorde la force et la sagesse de continuer à protéger son peuple en cette période de deuil. Les souvenirs de son premier mariage avec Alakouche revinrent la hanter une fois de plus. Elle se souvint des instructions de son père à son mariage. « Tu dois être déterminée à devenir l'un de mes membres. Quand je pars en expédition, tu dois être mon aide. Quand je galope, tu dois être ma monture. » Il ne faisait aucun doute qu'elle avait pour mission non simplement d'administrer les Hongud, mais de régner et de faire de la nation tribale des Mongols un empire mondial. Lorsque sa mère, Borté, lui posa la coiffe de béquille sur la tête, deux cornes incurvées en cuir noir sur une coiffe de feutre cramoisi, torsadées d'or et de perles blanches et rouges en cascade, les yeux d'Alakai se remplirent de larmes. « Tu apporteras la grandeur à la nation mongole, Alakai. » Sa mère cherchait à lui donner du courage, tout en cachant la tristesse dans son propre cœur. Elle monta sur son cheval, revêtue du cadeau de sa mère, une tunique et un pantalon teinté avec le jus de baies rouges de goji. Une caravane pleine d'armes et de provisions, de soie et d'argent, pris à des ennemis vaincus, l'accompagnèrent avec les soldats du Khan, jusqu'à Alakouche et son nouveau peuple. En partant, sa mère accomplit un ancien rituel de la steppe. Jeter du lait en l'air avec un instrument en bois ressemblant à une grande cuillère perforée. Le lait symbolisait une prière spéciale, que la route devant elle soit lisse et bien éclairée, au sens propre et au sens figuré. « Nous devons nous préparer, Becky. » La voix de son conseiller principal la ramena au présent, à l'envoi du prince consort en mission et à votre avenir. « Prépare la charrette de mon époux et mets-y ses effets personnels. Prépare également sa jument et son cheval. Il ne doit manquer de rien dans l'autre monde. » Il sera enterré à l'aube, fait galoper les chevaux sur le lieu de sa sépulture, que personne ne sache où il repose, déclara Alakai, stoïque. Les Mongols du XIIIe siècle enterraient leurs nobles comme les Égyptiens, avec biens et objets qu'ils pensaient utiles aux morts dans l'au-delà. Les Mongols allaient même jusqu'à sacrifier et enterrer une personne chère aux défunts et des animaux comme un cheval et une jument, afin que la personne décédée ne manque de rien dans sa nouvelle vie. Les rituels différaient en fonction du statut de celui qui était mort. Dans des pièces funéraires semblables à des cavités creusées dans le sol, les Khans et les hommes nobles étaient enveloppés dans du feutre avec du bois de santal pour son parfum et aussi pour repousser les insectes. Le corps était ensuite placé dans la chambre avec les effets personnels du défunt. Après avoir rempli la chambre de terre, on faisait passer des chevaux pour faire disparaître tout signe de sépulture. Il s'agissait de protéger les tombes du vandalisme et de toute profanation. Une autre raison possible était la croyance mongole en l'assimilation par l'annihilation, signifiant que le défunt ne faisait plus qu'un avec le grand tout et qu'aucune distinction ne devait subsister après cette fusion. Les coutumes funéraires des gens ordinaires consistaient à placer des peaux de chevaux et parfois des chevaux empalés sur les lieux de sépulture, probablement pour plaire au dieu du ciel Tengris. Des tasses de lait de chamelle frais et des sacs de cuir contenant de la viande de cheval séchée étaient laissés en offrande aux esprits. Une fois l'enterrement terminé et la période de deuil passée, Alaka est parti du camp de Jiangwei pour revenir dans son palais de la ville fortifiée. Après son mariage avec Alakouche et son arrivée dans sa ville, elle avait préféré demeurer dans sa propre yourte, près du palais de son époux. Il lui fallait du temps pour s'habituer aux murs et aux bâtiments qui semblaient emprisonner son esprit libre de nomade. Alaka devait désormais prendre des décisions immédiates. Votre plus jeune beau-fils, Bo Yawei, reviendra bientôt de la campagne militaire de votre père. Il a 17 ans et semble désigné pour être le prochain prince consort, déclara son conseiller principal, alors qu'Alaka était assise dans sa chambre officielle, réfléchissant à l'avenir. Par la fenêtre, les rayons de soleil venaient se refléter sur la broderie d'or de sa robe de soie jaune, projetant un halo lumineux autour d'elle. Ses yeux suivaient les dessins des nuages ornant les bords des tapis de fine laine qui se trouvaient sous ses pieds. Des motifs d'oiseaux volants et de fleurs lui rappelaient la liberté et le vaste ciel. Mais avec le pouvoir, lui incombait responsabilité et sens du sacrifice. Elle était reine et ne pouvait pas se laisser aller à ses caprices et à ses rêves d'enfant. Avec le départ de Jiangwei, comme le veut la coutume, son plus jeune beau-fils était destiné à être son prochain mari. Elle avait déjà dépassé la trentaine, mais elle savait que le mariage était un geste politique pour renforcer l'alliance mongole Ongud. Se versant un peu de koumis dans un bol en ivoire gravé de représentations des cinq museaux, cheval, mouton, chèvre, bœuf et chameau, elle contempla son reflet dans le liquide. Elle pouvait encore passer pour une femme de 20 ans. Il y a aussi la question des tangouts qui causent à nouveau des problèmes sur nos routes commerciales, poursuivit le conseiller. Alakai se leva. Son comportement passa de celui d'une femme en deuil à celui d'une reine du peuple. Quand elle prit la parole, son ton laissait transparaître une détermination d'acier. La tribu Tangout a longtemps gêné notre contrôle de la route de la soie. Mon père, le grand Genghis Khan, nous a confié à mes sœurs et à moi le soin d'assurer la sécurité de la route commerciale. Je ne saurais le décevoir maintenant. Préparez 10 000 hommes et chevaux pour accompagner l'armée de mon père, afin que les Tangout apprennent à ne plus jamais empiéter sur nos terres. Elle n'était pas connue comme la princesse qui dirige l'État pour rien. Après son père, Alakai était la Mongole la plus haut placée au sud du désert de Gobi. Une fois que Genghis Khan eut consolidé son royaume mongol, il rechercha le luxe des pays plus modernes pour son peuple. Celui-ci avait entendu parler de marchands qui, à quelques milliers de kilomètres de là, vendaient des soies qui glissaient sur le corps, des perles irisées et des émeraudes scintillantes, des peignes délicatement sculptés pour fixer les cheveux, et des cosmétiques et potions magiques qui prétendaient inverser le vieillissement et infusaient la virilité. Les Mongols voulaient également des babioles décoratives pour leurs tentes, leurs chevaux et pour eux-mêmes. Ils étaient fascinés par les histoires du bois de bambou, suffisamment léger pour flotter sur l'eau, mais aussi solide que le métal. Comparé à la richesse des autres nations, leur propre mode de vie nomade semblait terne. Le contrôle de la route de la soie, le célèbre réseau de routes commerciales entre la Chine, l'Inde et la Méditerranée, devint le prochain objectif de l'expansion de l'Empire mongol. Désormais, les Mongols pouvaient remplir leurs charrettes de fils de soie, de bols en porcelaine, de pots en laiton, etc. Ils transportaient des cruches de parfums et de maquillage à partir d'ocre, de plomb jaune, d'indigo, d'extraits de fleurs, de cire parfumée, de baume et de musc. Un passage important était là, au couloir du Gansu, une basse terre entre le plateau tibétain et mongol. C'était comme un détroit commercial qui avait longtemps été dominé par une tribu tibétaine appelée Tangout, laquelle forma plus tard une alliance difficile avec Genghis Khan. Genghis Khan maria judicieusement 3 de ses filles, dont Alakai, dans des royaumes qui plus tard contrôlèrent la route de la soie. Mais il devait continuellement garder sous contrôle les Tangout, qui se rebellaient de temps en temps. Alakai soutenait les campagnes de son père avec hommes et munitions de son armée. Bo Yawei arriva pour présenter ses respects à son frère disparu et rencontrer Alakai. Il savait que son avenir serait désormais lié à la veuve de son frère et qu'il était de son devoir d'être le prochain prince consort. « Je suis heureuse de vous voir, Boyawe », lui dit Alakai, avec un formalisme tranquille. « Nous devons préparer nos hommes à mater les Tangut et nous n'avons plus beaucoup de temps. J'ai envoyé un message à mon père. Demain matin, avant le lever du soleil, nous nous rendrons à son camp et lui présenterons nos plans de préparation. » Boyawe ne pouvait s'empêcher d'admirer l'esprit farouche de cette femme. « Oui, ma Beki. Je vais me préparer, ainsi que mes hommes, à rejoindre l'armée de notre grand Khan dans sa conquête de ces bandits de Tangut. » Il inclina respectueusement la tête, jetant un regard au beau visage de sa future épouse. Le destin avait fait de lui l'époux, le gardien et le protecteur d'Alakai Beki. Une femme légendaire qui continuerait à enflammer l'imagination des hommes et des femmes dans les siècles à venir. Sentant une longue nuit de préparatifs à venir, Alakai réclama une compote de peau d'orange séchée, rafraîchissante et détoxifiante. Le breuvage aux agrumes les garderait alertes et éveillées ce soir. Composé à part égale d'écorce d'orange parfumée et d'écorce de mandarine préparée avec un mélange de bois de santal, de fleurs de kudzu, de fleurs du haricot mungo, de ginseng, de cardamome et de sel torréfié, le tout réduit en poudre. Cette boisson était prise après avoir été mélangée à de l'eau chaude. En silence, Alakai et Boyawe burent cette décoction dans des bols en porcelaine, absorbés par la stratégie à adopter. Alors que les premiers rayons du soleil pénétraient dans le palais, la brise emporta les incantations du chaman royal, qui priait l'eau, la terre et le ciel, implorant la protection et le succès de la prochaine mission décisive de la Beki. Aux portes du palais, Alakai et Boyawe enlevèrent brièvement coiffe et ceinture en signe de respect envers les éléments. Ils s'inclinèrent face au soleil, puis ils enfourchèrent leurs montures et filèrent vers le cantonnement du Khan, situé à une journée de cheval. Avec le vent qui lui piquait les yeux, Alakai sentait l'amour monter en elle, pas pour un homme, mais pour la nation mongole.
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.